Et drôle de circonstance, vous proposez une nouvelle émission autour de l'environnement dans un contexte où l'un des symboles les plus forts de la nature, la forêt amazonienne, est en train de brûler. Ces incendies d'une ampleur exceptionnelle nous interpellent et nous montrent à quel point il y a quelque chose qui ne va pas dans notre rapport à la nature. C'est justement le sujet de cette première demi-heure de Terre au Carré, sur lequel vous allez pouvoir intervenir dès maintenant pour nous dire ce que ces incendies évoquent pour vous. Vous en discuterez avec nos invités, l'écologue Plinio Sist et l'anthropologue Philippe Descola au 01 45 24 7000, mais également sur les réseaux sociaux qui seront incarnés dans l'émission par vous, Anna Massardier, notre community manager. Bonjour Anna.
Bonjour à tous, bonjour Camille, bonjour Mathieu.
C'est donc vous qui serez derrière Twitter et Facebook, hein ?
Absolument, alors n'oubliez pas de réagir sur le hashtag l'attaque et sur la page Facebook. Je lis vos commentaires avec attention et vos questions.
Et puis au menu de cette Terre au Carré, une autre nouvelle voix, celle de Camille Cronier. Bonjour Camille.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Camille passe au vert, ce sera votre rendez-vous sur le terrain.
Tous les jours, et aujourd'hui je vais vous parler de l'écologie intégrale. Vous ne savez pas ce que c'est. Ça tombe bien, moi non plus, du coup je suis allée me renseigner, j'ai essayé de trouver une explication, c'était pas si facile.
Et puis dans la deuxième demi-heure de l'émission, 14h03, vos solutions pour la planète. Tous les jours, vous nous ferez part de vos initiatives individuelles ou collectives pour faire bouger les choses. Et nous irons aujourd'hui dans le Vercors retrouver la responsable d'une association qui œuvre pour la protection des animaux sauvages en achetant des terres. 14h08, un grand reportage sous forme de feuilleton avec notre équipe de journalistes, et on commencera avec vous, Antoine Lee. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Quel est le sujet de cette semaine de reportage ?
Eh ben, c'est les jeunes qui se mobilisent pour l'environnement. Et aujourd'hui, je vous emmène en Savoie, à Albertville, à la rencontre de Louise, 16 ans. Elle est partie en guerre contre les déchets.
Et puis 14h16, l'invité découverte autour d'un livre, d'une publication scientifique, d'une expo ou d'un film. Aujourd'hui, une bande dessinée sur l'histoire du vin, histoire de fêter avec sobriété cette première émission, La Terre au Carré. Première, bienvenue à toutes et à tous.
Mathieu Vidard. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Bonjour Plinio Sist.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes écologue, directeur d'une unité de recherche, cette unité forêt et société au CIRAD. Vous êtes spécialiste des forêts tropicales humides. Et puis nous sommes également en ligne avec l'anthropologue Philippe Descola, qui est également le parrain de notre Terre au Carré. Bonjour Philippe Descola.
Bonjour Mathieu Vidard.
Merci beaucoup d'avoir accepté donc d'être le parrain de l'émission. Émission donc sur l'environnement qui démarre avec cette actualité autour des incendies dans la forêt amazonienne. Philippe Descola, qu'est-ce que ça vous inspire finalement, cette concordance des événements ?
Ben malheureusement, ça n'est pas complètement inattendu parce que ça fait des années, des décennies que la forêt amazonienne est détruite. Simplement, ça prend une forme maintenant beaucoup plus spectaculaire du fait des incendies. Mais je me souviens d'avoir atterri dans un avion de ligne dans l'Acre, dans l'ouest du Brésil, il y a une quinzaine d'années, et il n'y avait pas de système d'atterrissage automatique, et donc il a fallu tourner pendant une heure avant de pouvoir se poser en raison des feux de forêt liés au défrichement des grands propriétaires terriens qui coupent la forêt pour y mettre des pâturages et du bétail. Donc la situation à présent a pris une ampleur considérable, mais elle ne date pas d'aujourd'hui.
Plinio Sist, qu'est-ce que ça représente justement cette forêt amazonienne à l'échelle de la planète ? Quel est son rôle ? On parle toujours de ce poumon vert qui est remis en cause, l'expression elle-même par les scientifiques.
Oui, elle est remise en cause parce que c'est pas vraiment un poumon. En fait, elle fonctionne à l'inverse d'un poumon, hein, elle absorbe du CO2 et elle rejette de l'oxygène. Mais les arbres aussi respirent, les végétaux respirent aussi. Mais c'est bien plus que cela, c'est une source de biodiversité inestimable. C'est un écosystème qui joue un rôle dans l'équilibre climatique du continent américain, mais de la planète entière. C'est une fabrique à pluie. Et c'est également un écosystème qui protège de l'érosion et qui régule également tous les réseaux hydriques amazoniens.
Donc il y a un rôle de régulation du climat avec cette forêt amazonienne.
Tout à fait. Et certains spécialistes disent que on est assez proche du point de rupture qui serait situé, selon ces spécialistes, entre 25 et 30% de déforestation de la forêt amazonienne. Aujourd'hui, on a atteint un taux de déforestation, on a éliminé 20% de la forêt amazonienne, donc on se rapproche, selon ces prévisions qui viennent de l'agence de recherche spatiale brésilienne.
Absolument.
Donc on se rapproche du point de rupture assez rapidement.
Oui, on voit une augmentation aussi, une accélération de ce phénomène de déforestation. Est-ce qu'on connaît bien les causes justement de ces incendies aujourd'hui? Parce que c'est pas si simple non plus de les analyser.
Ouais, pour répondre à cette question qui est assez complexe, effectivement, il y a les grands propriétaires terriens qui brûlent pour gagner de la place sur la forêt, mais il faut être un petit peu prudent aussi de donner une image un peu trop simpliste. Il y a les petits agriculteurs aussi qui utilisent le feu pour brûler et faire de l'élevage. L'élevage n'est pas fait simplement que par les grands fazendaires aussi. Mm-hmm. Les petits, l'agriculture familiale qui fait pas mal d'élevage et qui contribue à leurs conditions de vie, à leurs revenus annuels.
Mais est-ce que ces pratiques ancestrales, hein, du brûlis par exemple, pourraient aussi être à l'origine de ces grands feux ou...
Non, là, on parle vraiment d'outils. On utilise le feu, de façon effectivement ancestrale, mais là, c'est à des échelles et avec des impacts beaucoup plus grands, c'est sur des surfaces beaucoup plus grandes. Après, il faudra attendre un petit peu l'analyse de l'INPI, de l'Agence de recherche spatiale, pour voir quel type d'écosystème a brûlé. Il y a fort à parier que il y a beaucoup de forêts qui a été dégradée ou des anciennes terres qui ont été déforestées ou la forêt a commencé à repousser et qui est à nouveau brûlée. Quelle est la part de la déforestation illégale? Parce que le code forestier autorise encore une déforestation sur une partie de chaque propriété.
Ouais. Philippe Descola, on voit l'émotion suscitée par ces incendies à l'échelle mondiale sur les réseaux sociaux, dans les médias, avec peut-être aussi une image de la forêt amazonienne qui n'est peut-être pas tout à fait la bonne. On a toujours cette impression d'une forêt sauvage, de ce qu'on appelait même la jungle. C'est très présent dans notre imaginaire occidental.
Oui, tout à fait. Alors que depuis une trentaine d'années, on mesure beaucoup mieux maintenant à quel point la forêt amazonienne est un écosystème anthropique, c'est-à-dire que la distribution des végétaux est en partie le résultat de l'action des Amérindiens depuis un peu plus de 8000 ans, liée à l'horticulture sur brûlis et à l'agroforesterie, c'est-à-dire à l'entretien de certaines espèces sauvages sous couvert forestier. Et je voudrais confirmer ce que disait à l'instant Pignossis, c'est-à-dire que l'horticulture sur brûlis que pratiquent les Amérindiens, elle se fait dans des clairières qui dépassent rarement un hectare. Elle contribue à la biodiversité, puisque non seulement on y cultive un très grand nombre d'espèces cultivées qui ont été domestiquées dans cette région, mais aussi on y transplante des plantes sauvages qui sont utiles à l'homme. Et c'est par ce processus que la biodiversité est maintenue, mais accrue dans un sens positif, c'est-à-dire utile à l'homme, depuis des millénaires que ces façons culturales se sont développées. À la différence de ce qui se passe dans les grands défrichements des fazendelos, c'est-à-dire des grandes propriétés, ou dans la petite colonisation spontanée, ou en tout cas encouragée par le gouvernement, dans lesquels les défrichements se font en ligne de front, et la forêt ne veut plus se reconstituer. Donc de ce point de vue-là, l'encouragement qui a été donné par le gouvernement brésilien à l'exploitation de l'Amazonie est à courte vue, parce que les sols en général sont plutôt médiocres et la destruction de la forêt dégrade ces sols assez rapidement. Et donc c'est au fond le résultat est d'appauvrir le Brésil et en général les pays amazoniens qui pratiquent ces défrichements à grande échelle, dans la mesure où la ressource est en train d'être dégradée, à l'exception de certains biotopes comme les terrasses des alluviales des grands fleuves, les choses comme ça, où les sols sont meilleurs.
Oui, la ressource et la biodiversité, Pliniosis, parce qu'il faut voir aussi cette forêt comme ça, comme une source de richesse de toutes les espèces, de l'homme jusqu'aux insectes.
Oui, c'est la forêt tropicale amazonienne est avec les forêts de Bornéo, les écosystèmes forestiers tropicaux les plus biodiverses. Dans des parcelles que nous avons fait au CIRAD en Amazonie, on recense entre 150 et 200 espèces d'arbres selon la localisation de la parcelle en Amazonie par hectare. Donc sur un terrain de football, grosso modo, vous avez pratiquement un arbre sur trois qui appartient à une espèce différente. Donc c'est une, et on parle que des arbres. Mmh. Donc plus récemment, le professeur Allais avec le radeau des scies a montré que sur la canopée en haut des arbres, il y a encore une biodiversité que on ne connaît absolument pas.
Francis Allais, on en reparlera d'ailleurs cette semaine avec l'exposition autour des arbres en ce moment à la Fondation Cartier. Allez, on poursuit la discussion autour de la forêt amazonienne et vous avez la parole évidemment dans cette émission La Terre au carré puisque vous pouvez nous appeler, le standard est ouvert 01 45 24 7000.
France Inter. La Terre au carré.
Et Camille passe au vert, c'est désormais donc votre rendez-vous quotidien, Camille Cronier, et vous nous parlez aujourd'hui d'un concept qui vous a plutôt intrigué, et nous aussi d'ailleurs, hein, c'est l'écologie intégrale, qui faisait même son université d'été la semaine dernière.
Oui, je me suis effectivement demandé ce que c'était cette écologie intégrale, donc me voilà partie pour l'Essonne, dans une abbaye au beau milieu d'une forêt à 40 minutes à pied du moindre transport en commun. J'y suis donc allée en voiture, fouettez-moi, mais je précise quand même que le parking était plein, hein. 150 personnes présentes en train de faire des ateliers dans le jardin et moi en train de leur poser une question simple, enfin a priori.
C'est quoi la différence avec l'écologie tout court en fait ?
L'écologie ça, c'est limité et intégrale c'est toute l'intégralité qui peut regrouper l'écologie intégrale.
Voilà, bon, j'ai fait un deuxième essai avec un monsieur qui tendait l'oreille juste à côté.
Bonjour.
Bonjour.
J'étais intriguée par le terme d'écologie intégrale, je sais pas du tout ce que c'est.
J'ai pas encore le truc vraiment en tête, c'est que il faut prendre en compte tout. Ah, on se cherche encore, hein, quand même, mais on y va gentiment.
Alors, en attendant de comprendre, et on va comprendre, je vous le dis, sachez quand même que certains participants avaient des discussions relativement accessibles.
Et la vaisselle, ça consomme beaucoup plus d'eau que
de faire la vaisselle à la main.
Oui, moi, je l'ai calculé.
Ça dépend, ça dépend comment on fait couler le robinet.
Ouais, c'est un vrai débat, ne vous moquez pas, la réponse n'est pas évidente. Enfin, on va pas se disperser. L'écologie intégrale, c'est en fait beaucoup moins terre à terre que ça.
Elle est intégrale dans le sens où je l'intègre aussi bien l'esprit, le corps. Donc l'homme est un peu au centre de toute cette réflexion, y compris avec le créateur, puisqu'on intègre aussi la dimension du créateur.
Ah voilà, on y arrive, je vois les têtes qui font. Mmh. Oui, l'écologie intégrale, c'est un terme en fait qui a été utilisé par le pape François en juillet 2015, la première fois, dans une encyclique, c'est pas rien, avec cette idée que tout est lié, l'humain fait partie de la création donc, et doit être remis au centre ou au sommet, ce que les écologistes classiques ne feraient pas suffisamment.
Pour des écologistes, tout est un petit peu équivalent. L'homme est un animal parmi d'autres.
Les vrais écologistes s'occupent trop des sols et des petits oiseaux.
Oui, la nature, ça va. Hein. Donc ne les appelez surtout pas verts ou écolo.
Je ne suis pas écologique, je ne suis pas vert, je fais partie, je suis terrestre. Tout simplement.
Terrestre.
Je suis terrestre.
Ah, terrestre, option 1.
Mais vous-même.
Il y a aussi une option 2.
Plus qu'écologiste, bon père de famille et qui pense à l'avenir de mes enfants. Quoi.
Vous avez des enfants,
non?
Non, pas d'enfants non plus. Mais alors, rien à voir cette fois avec les défenseurs de la planète qui ont décidé pour certains de ne pas faire d'enfants pour la préserver. Ici, chez nos amis les terrestres, donc, on n'a pas du tout le même discours.
Vous n'êtes pas pour ne plus faire d'enfants, pour les gens qui disent « moi, je ne fais pas d'enfants pour sauver la planète ».
Non, non, parce que je pense qu'il ne s'agit pas... Il faut que notre écologie soit joyeuse, c'est-à-dire pas limitative. Il y a déjà suffisamment de contraintes.
L'écologie joyeuse, vous avez entendu, c'est un prêtre qui parlait. Entendu également, toujours en rapport avec le corps, un petit parallèle avec les OGM.
Comment est-ce que vous pourriez expliquer qu'on est contre les OGM parce qu'on ne veut pas transformer la nature, les plantes, et pourquoi est-ce qu'on pourrait demain avoir un rapport à l'humain qui marchandise, par exemple, le corps des femmes dans le cas de la GPA.
Ça n'a rien à voir avec l'écologie,
À l'écologie intégrale, si, justement. Parce qu'à l'écologie intégrale, c'est une vision complète qui intègre la question du corps. On fait quand même partie d'un écosystème. C'est aussi cette vision-là, l'écologie intégrale.
Alors, ne me demandez pas s'ils sont nombreux, les écolos intégraux, c'est impossible à chiffrer. Très catholique, mais pas que, c'est en tout cas ce qu'ils assurent. Le terme lui-même fait débat, associé parfois au conservatisme ou même à l'intégrisme. Delphine Bateau, ancienne ministre de l'écologie, qui ne s'affiche pas comme catholique, en a fait un livre qui vante, je cite, « l'harmonie avec l'ensemble du vivant pour pouvoir soulever les montagnes ». Les relations sociales sont au centre de l'écologie intégrale, on me l'a également expliqué.
Deux êtres humains qui vont être en conflit auront un impact à terme sur l'environnement.
Alors, on espère donc que Booba et Carice aussi en prendront de la graine. Oui. Question pour vous, Philippe Descola, écologie tout court ou écologie intégrale ?
Oui, ni l'un ni l'autre, j'allais dire. L'écologie, c'est un terme qui focalise, qui concentre, qui condense depuis quelques années à la fois une attitude vis-à-vis de l'environnement et puis un ensemble de solutions. Mais je pense qu'au-delà de l'écologie, la nécessité que nous éprouvons, en tout cas quelques-uns, est de changer
nos comportements.
Le comportement et même le système productif au sein duquel nous sommes engouffrés il y a quelques siècles et qui est fondé sur cette idée complètement folle que d'une croissance illimitée par le progrès illimité des techniques. Et je pense que c'est une illusion et que cette illusion, on risque quelquefois de l'entretenir en adoptant une attitude dite écologique, c'est-à-dire le fait qu'on peut malgré tout aménager à la marge, sur les bords, la situation actuelle, alors qu'en réalité c'est un bouleversement profond qui est exigé si l'on veut éviter une catastrophe qui commence à poindre.
Allez, justement, on en parle, la situation en Amazonie, dans la forêt avec ses feux de forêt et la déforestation. Vos messages au standard 01 45 24 7000. Come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart.
That I feel you, but it's a sensitive device. Sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time?
Help me avec les raconteurs.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Et c'est aujourd'hui donc le premier numéro de cette nouvelle émission, La Terre au carré. Vous avez vu Camille, j'ai pas encore dit La Tête au carré.
Non, pas
c'est
encore,
bien,
mais
hein.
je guette
voilà,
le moment où ça va arriver.
Nos invités, l'écologue du CIRAD Plinio Siste et l'anthropologue Philippe Descola, pour parler donc avec vous des feux de forêt en Amazonie, de la déforestation qui fait rage au 01 45 24 6000. Et puis 7000. Anna, 7000, bravo, 7000. Vous voyez. Et les messages sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup hein,
alors,
sur ce sujet.
Il y en a beaucoup et un petit peu dans le même sens. Alors sur la page Facebook de l'émission, on a notamment T. Paloma qui se demande comment c'est possible que la forêt amazonienne qui est très humide puisse brûler si facilement.
Plignociste.
Oui, en fait, c'est un raccourci que l'on fait lorsqu'on dit que la forêt amazonienne brûle. En général, ce qui se passe, c'est que ce qui brûle, c'est surtout, comme je le disais au début, soit de la forêt qui a été dégradé par des passages successifs d'exploitants forestiers illégaux ou un défrichage avant la saison des pluies et ensuite on met le feu à ces terres qui ont été déjà dégradées ou déjà défrichées. Mais la forêt amazonienne sur pied est un bon rempart contre le feu, même si en bordure elle peut, le sous-bois peut brûler et certains gros arbres peuvent mourir en bordure, mais le feu ne va pas très très loin à l'intérieur de la forêt parce qu'effectivement elle est humide. Par contre, la situation peut changer avec justement ce contexte de changement climatique. Les saisons sèches qui sont de plus en plus longues peuvent fragiliser la forêt tropicale humide et justement avoir des conséquences sur le changement d'humidité et donc fragiliser les forêts à moyen terme contre les incendies.
Allez, on part au standard de France Inter 01 45 24 7000. Zachary est en ligne. Bonjour Zachary.
Bonjour à tous.
Bienvenue à vous, premier auditeur donc oui. De l'histoire de la Terre au carré et vos questions à nos invités Pliniociste et Philippe Descola. On vous écoute, bienvenue.
Merci beaucoup. Alors voici ma question. On entend beaucoup parler de l'Amazonie, mais quand on regarde les cartes satellites, on voit aussi que ça brûle beaucoup dans le bassin du Congo, en Afrique, en Indonésie également, et même en Sibérie. Pourquoi on entend surtout parler de l'Amazonie et moins de ces autres régions? Est-ce que c'est à cause du fait qu'il y ait des déforestations également? Est-ce que les feux sont dus à ça?
Alors, Plignociste, c'est vrai, hein, parce que quand on regarde les images satellites, on est impressionné par l'ampleur. On se demande même si le globe dans son entier n'est pas en train de brûler. Hein.
Oui, c'est vrai. Bon, plus on réduit l'échelle et plus, effectivement, ça devient tout rouge. Je pense qu'on parle d'abord plutôt de l'Amazonie, parce que la déforestation en Amazonie a commencé dès les années 70 avec des programmes successifs de colonisation de l'Amazonie qui étaient orchestrés par, à l'époque, le gouvernement militaire qui gouvernait le pays à l'époque. Et depuis plus de 30 ans, même si le Brésil a fait des efforts considérables à partir des années 2004, pour réduire, et il faut le souligner quand même, et c'est important de le souligner ici, le gouvernement Lula et Dilma ont eu des politiques volontaristes de lutte contre la déforestation, qui a été reconnue internationalement comme un succès. Alors, pour donner des chiffres, en 2004, on recensait 2,7 millions d'hectares de forêts disparues en 2004 par an, et on est tombé en 2012 à moins de 500 000 hectares, donc une réduction assez significative de 80% de la déforestation. Et c'est cet effort-là qu'il faudrait que M. Bolsonaro continue. Donc je pense qu'on parle...
Mais il fait exactement l'inverse. Hein.
Oui, on peut le dire, je pense. Mais c'est sans doute pour ça qu'on parle de l'Amazonie. Le bassin du Congo est encore relativement peu concerné par la déforestation, même si aujourd'hui, la République démocratique du Congo a enregistré depuis un an ou deux des taux de déforestation assez élevés. Mmh. Et il y a une crainte que le bassin du Congo soit le nouveau front de plantation de palmiers à huile.
Merci Zachary pour votre appel. Anna, d'autres messages sur le hashtag l'attaque?
Alors oui, notamment Priscilla qui demande combien de temps pour que la forêt se régénère, si jamais elle y arrive.
Alors après un incendie...
Beaucoup de temps, plusieurs siècles.
Surtout pour la forêt primaire, j'imagine, non ?
Exactement, oui. En fait, lorsqu'on coupe à blanc une forêt primaire, il s'installe un pôle d'espèces qui aiment la lumière. Ce sont des espèces relativement de durée de vie assez courte, avec des bois très très légers. Et puis, au cours du temps, s'installent des espèces de moins en moins exigeantes vis-à-vis de la lumière. Mais c'est un processus qu'on appelle la sylvigénèse et qui demande plusieurs siècles pour revenir, je ne dirais pas à l'état initial, parce qu'on n'aura pas tout à fait les mêmes espèces en termes de proportion. Mais il faut compter, oui, entre 200 et 300 ans pour retrouver une forêt vraiment primaire.
200 à 300 ans.
Ouais, Philippe Descola, finalement, quels sont les leviers, selon vous, aujourd'hui à notre disposition pour essayer, nous, à quelques milliers de kilomètres de cette forêt, d'agir quand même?
Écoutez, je pense
que le, il y en a un qui a été évoqué déjà, c'est les échanges économiques entre l'Union européenne et le Mercosur et le traité qui a été négocié entre l'Union européenne et le Mercosur et qui a comme conséquence de, s'il est ratifié par tous les parlements européens, d'encourager, je pense, l'agrobusiness en Argentine, au Brésil, à développer ces grands systèmes d'exploitation de palma et huile en particulier, et de culture de soja. Mmh. Et donc notre première responsabilité, c'est de ne serait-ce que de prendre conscience du fait que nos vaches en Europe consomment des tourteaux de soja qui sont produits au Brésil en partie sur des morceaux de la forêt amazonienne défrichés, que nos plats préparés contiennent de l'huile de palme qui est faite dans ces grandes plantations, pas simplement d'ailleurs évidemment en Amazonie, mais aussi en Afrique centrale et dans les forêts d'Asie du Sud-Est. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, notre responsabilité première du citoyen lambda, c'est celui d'un consommateur qui devrait prendre conscience que ce qu'il consomme est en partie le produit de la déprédation de la forêt, de la spoliation des terres, des populations autochtones. Ça, c'est déjà un premier élément, et donc c'est un comportement raisonnable de consommateur est au moins quelque chose que l'on peut faire. Deuxième volet d'action, et qui est beaucoup plus délicat au fond, c'est de rendre responsables des pays qui laissent faire ou encouragent la déforestation des conséquences écologiques que cela produit. C'est pas facile parce que ça se heurte à des questions de souveraineté nationale bien compréhensibles. Les Brésiliens, quelle que soit d'ailleurs leur opinion politique, sont très réticents à ce qu'on a souvent brandi depuis la dictature militaire comme une menace d'internationalisation de l'Amazonie. Et c'est pas simplement le cas du Brésil. Il faut rappeler que on parle beaucoup du Brésil parce que le Brésil occupe une grande partie de l'Amazonie, mais il y a 11 pays qui ont un morceau d'Amazonie, si on entend par là la forêt tropicale qui couvre à la fois le bassin amazonien, mais aussi le bassin de l'Orénoque et les Guyanes.
Ouais. Et la France, donc effectivement, avec la Guyane.
Ouais. Voilà. C'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron, que la France était concernée par cet incendie, puisque la Guyane est évidemment française.
Philippe Descola, merci beaucoup en tout cas. Parrain donc de la Terre au Carré, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Merci à vous Plinio Siste, vous êtes donc directeur de cette unité au CIRAD, autour des forêts. Et puis Camille, il y a d'autres informations dans l'actualité environnementale aujourd'hui.
Oui, avec le chiffre du jour, 50%, voilà de combien pourrait grimper la production russe de charbon dans les 15 prochaines années grâce au réchauffement climatique. Et oui, le dégel des sols et la disparition accélérée de la banquise en été facilitent l'extraction et le transport maritime du charbon dans les régions reculées de l'Arctique russe. L'objet du jour, c'est la bouteille plastique qui peut s'échanger contre un ticket de bus ou un ticket de métro,
ah
Mathieu.
Oui. Ouais.
15 bouteilles égale un trajet de bus à Guayaquil en Équateur,
oui,
par exemple.
Paris
non,
il
faut
en France,
y aller quand même.
Hein. Ouais.
30 bouteilles, ça commence à faire beaucoup là pour le métro à Rome. Enfin, l'insolite du jour, c'est dans la très sérieuse revue Ornithological Application, j'ai pas l'habitude, qui nous dit que les corbeaux des villes ont plus de cholestérol que ceux de la campagne aux États-Unis. Explication relativement simple après observation des oiseaux en Californie et à New York. Ils mangent les restes de cheeseburgers dans les poubelles. On leur souhaite éventuellement à ces maîtres corbeaux de croiser un renard pour leur piquer leur fromage. La fontaine avait peut-être déjà la solution. Pligneulociste, ça vous fait réagir cette histoire de corbeaux?
Oui, parce qu'on voit même dans les villes l'impact des hommes sur les animaux urbains. On n'a pas beaucoup parlé de l'urbanisation, mais il y a beaucoup d'animaux dans les villes et de plus en plus. Et c'est assez, enfin, à la fois triste et comique de voir que les corbeaux vont développer du cholestérol comme beaucoup de Nord-Américains.
Donc chacun de nos gestes compte.
Merci beaucoup, Pliniociste. Et puis pour ceux qui souhaitent également avancer sur ce thème de l'Amazonie, Philippe Descola est également l'auteur d'un livre qui a été publié en 1995, La nature domestique, symbolisme et praxis dans l'écologie des hachoirs. C'est aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Juste après les infos tout à l'heure, vos solutions pour la planète. Et nous serons en ligne avec vous, Madeleine. Bonjour.
Bonjour Mathieu, merci pour l'invitation.
Et vous nous appelez du Vercors. Quel sera le projet dont vous allez nous parler tout à l'heure?
Et bah justement, Vercors vie sauvage, en fait, redonner aux aigles, aux cerfs, aux fourrés, aux humains 500 hectares de nature sauvage dans le Vercors. Par trois actions, mobilisation, acquisition et libre évolution.
Très bien, le message en tout cas est clair et on va le détailler tout à l'heure. Merci beaucoup, bienvenue à toutes et à tous dans La Terre au Carré. Si vous nous retrouvez, c'est la deuxième demi-heure de l'émission qui commence avec dans quelques minutes le premier reportage de la semaine signé Antoine Lee qui a réalisé une série de portraits de jeunes qui se mobilisent pour l'environnement. Et puis notre invité découverte, ce sera Benoît Sima qui viendra nous présenter une bande dessinée sur l'incroyable histoire du vin.
Les combats pour la nature ou les problèmes d'environnement sont moins politiques qu'économiques.
France Inter, la Terre au carré.
Et la voix de Michel Serres, vos solutions pour la planète. Vous êtes à l'initiative d'un projet, seul ou collectivement, vous avez besoin d'aide pour en réaliser un. Ou vous souhaitez carrément pousser un coup de gueule sur l'antenne, sur une action qui vous défrise. Eh bien, vous pouvez nous contacter sur la page de la Terre au Carré, comme l'a fait Madeleine, qui est en ligne avec nous. Et on vous retrouve. Vous nous appelez d'où exactement, Madeleine, dans le Vercors?
Alors là, c'est au pied du Vercors, plutôt vers la région valentinoise. Mais en fait, le Vercors en y est en 5 minutes, donc...
En 5 minutes,
vous êtes, là, vous n'êtes pas précisément dans le Vercors, en fait. Vous êtes juste à côté.
Juste au pied du Vercors, à Valence. Voilà. Mais je vais y retourner tout à l'heure.
Voilà, le massif du Vercors, ce massif montagneux des Préalpes à cheval sur les départements français de l'Isère et de la Drôme. Et vous vous occupez, Madeleine, d'une association. Comment on prononce son nom? C'est l'ASPAS?
Voilà, tout à fait, ASPAS, ça veut dire Association pour la protection des animaux sauvages. Mmh.
Alors, quelle est l'action exacte de l'association et donc ce projet dont vous avez eu envie de nous parler là aujourd'hui?
Alors, l'objet premier, c'était de protéger les espèces animales. Et en fait, on est parti d'un constat simple, c'est que pour bien protéger les espèces, il fallait bien protéger les espaces. Donc, avec le constat que moins de 1% du territoire bénéficie d'une protection réelle dans les parcs et les réserves naturelles, et que même dans ces espaces, il y a de la chasse, de la coupe de bois, de l'exploitation, enfin, beaucoup d'activités humaines, l'ASPAS s'est dit il faut créer un niveau de protection supérieur, et donc on s'est lancé dans la création de réserves de vie sauvage.
Quand vous dites « on », vous êtes combien?
Des réserves de vie sauvage, ce sont des sortes de foyers du vivant qui va permettre à la nature, au milieu, à toutes les espèces, de trouver la place de s'épanouir et de s'exprimer librement, ce qui va permettre de rayonner, en fait, bien au-delà de ces simples surfaces et sur tout le territoire. Et
Camille souhaitait savoir combien vous étiez dans l'association?
Oh pardon, alors nous sommes 15 salariés et l'association compte aujourd'hui à peu près 12 000 membres sur le territoire national.
D'accord.
Mais alors cette idée, parce que le but c'est d'acheter des terres hein, justement pour pouvoir mettre au point des espaces de protection pour à la fois la faune et la flore, c'est une idée qui vous est venue, vous, au sein de l'association, ou il y avait des précédents ailleurs dans le monde?
Alors, très peu, en fait. Il y avait des concepts de propriété qui permettaient d'avoir plus de droits sur sa propriété. Et l'idée, ça a été de détourner ce concept de propriété en disant que finalement, c'est par l'acquisition, par la maîtrise foncière qu'on pouvait exiger ou s'imposer nous-mêmes des niveaux de protection supérieurs qui n'existaient pas ailleurs sur le territoire national, un peu dans d'autres pays, mais c'était encore assez timide.
Parce que là, du coup, ça veut dire que dans les espaces que vous récupérez, que vous acheter, il y a interdiction de chasser, interdiction de se promener. Non, il y a quand même le droit de se promener, mais pas de chasser, par exemple.
Non, voilà, tout à fait. En fait, l'idée, c'est pas de mettre, entre guillemets, la nature sous cloche. En fait, l'idée, c'est vraiment de laisser des zones où les milieux pourront s'épanouir et permettre à tous les êtres vivants, hein, qu'ils soient animaux, végétaux, humains, d'aller et venir librement. Et ça permet une immersion au contact de la vie sauvage.
Donc ça, c'est vraiment le concept. C'est la libre évolution des espèces au sein de ces espaces dont on peut devenir propriétaire. Hein.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un concept de gestion, la libre évolution, qui va laisser la place à ce que la nature a décidé de faire elle-même. Et c'est assez nouveau parce que ça perturbe un peu notre pensée qui voudrait qu'on entretienne des espaces d'une certaine façon ou d'une autre. Mais ce qu'il y a de plus novateur dans ce concept, c'est d'associer ça, si vous voulez, à une mobilisation citoyenne et de permettre à tout le monde d'y participer.
Et vous en avez déjà plusieurs des réserves? Ça fait longtemps que vous faites ça, j'imagine.
L'ASPAS gère déjà 700 hectares en réserve de vie sauvage sur tout le territoire national. Il y en a déjà dans la Drôme, dans l'Hérault, les Côtes d'Armor, le Massif central.
En combien de temps tout ça, vous avez fait en combien d'années?
En moins d'une dizaine d'années.
Ah oui. Donc ça peut aller vite.
Mais comment vous choisissez les espaces
le concept de Vert Corvis Sauvage, c'est le projet le plus ambitieux sur lequel on se lance, parce que c'est 500 hectares d'un seul tenant, donc c'est rare d'avoir des surfaces aussi importantes qui peuvent permettre justement un vrai intérêt pour la nature, parce qu'il y a suffisamment de milieux et suffisamment d'espace pour laisser s'exprimer librement.
Ouais, donc l'idée, c'est d'acheter des terres, hein, c'est de devenir propriétaire, ça on l'a dit déjà. Est-ce que vous avez aussi un travail d'observation quasiment de scientifique aussi pour voir l'évolution de ce que ça fait de laisser comme ça un espace ouvert, hein, aux espèces?
Oui, ça on le fait plutôt à titre indicatif, pour on met des caméras pièges, on fait du suivi, mais on veut pas non plus transformer ces zones-là en laboratoire scientifique. C'est juste pour avoir la validation que oui, la nature, certains animaux sont de nouveau sont plus présents ou sont de retour sur notre réserve des deux lacs dans le sud de la Drôme.
Lesquels?
On a eu le retour spontané, naturel, de la loutre, du castor, de la genette, et c'était des espèces qui n'étaient pas présentes sur le site avant qu'on en fasse une réserve de vie sauvage.
C'est quoi la genette? Vous connaissez la genette, Camille?
Non. C'est un félin, non?
Ah oui, c'est ça, oui. Lisez vos notes.
Un petit carnivore, mais qui est finalement, ici, c'est assez surprenant. Pas grand monde le connaît beaucoup et c'est très beau. Faudra taper sur internet Genette, vous verrez.
Ah oui, absolument.
Surprenant, on dirait pas une espèce de chez nous.
Il faudra aller se balader dans le Vercors. Peut-être qu'on en croisera.
Oui. Ou en Bretagne, parce qu'on le disait vraiment, vous avez des sites un peu partout. Et le but, c'est de pouvoir vraiment agrandir votre carte aussi, Madeleine.
En fait, de permettre des zones comme des corridors avec des liens. Donc, l'idée, c'est pas de transformer un département en réserve de vie sauvage. C'est vraiment de créer des zones de quiétude un petit peu de partout et qui permettent des corridors et qui permettent d'aller et venir librement.
Donc
pour les animaux.
Vous achetez les terres, mais si on veut vous en donner, si des gens nous écoutent et qu'ils ont des terres à donner, ils peuvent aussi vous les donner. On est d'accord?
Tout à fait. Il y a deux de nos réserves qui sont des donations. Après, les autres, ça a été des acquisitions qu'on a pu faire, en fait, grâce aux dons de particuliers, d'adhérents, de donateurs, parce que l'ASPAS est 100% indépendante politiquement et financièrement. Donc, ce qu'elle fait, ces acquisitions, c'est vraiment que grâce aux dons de particuliers, de privés.
Madeleine, vous ne faites pas encore des espaces pour les humains, pour ceux qui sont à la recherche, justement, d'une libre évolution. Il n'y a pas encore territoire pour eux, hein.
Alors, nos réserves intéressent beaucoup ces humains qui ont besoin de se ressourcer. Alors, ils pourront y aller de passage, parce que l'idée, c'est pas non plus de que les humains soient trop présents sur ce site, mais qu'ils puissent y aller et se ressourcer librement à leur guise.
Merci en tout cas pour votre projet, Madeleine. L'aspace-nature.org, hein, c'est le site pour tout savoir justement sur ce projet, pour également ceux qui souhaitent vous donner un coup de main concret. Et puis Anna, on appelle évidemment tous nos auditeurs internautes à se manifester aussi.
Absolument, vous pouvez continuer à réagir et à nous envoyer vos initiatives sur la page Facebook de l'émission et sur le hashtag L'Attaque. Donc si vous souhaitez parler de vos solutions pour la planète, que vous montez un projet autour de l'environnement, si vous avez besoin d'aide ou vous voulez partager un coup de gueule, le hashtag L'Attaque.
Allez, Madeleine, merci beaucoup et bonne journée à vous dans le Vercors. À bientôt. Antoine Lee, on vous retrouve pour le premier portrait de cette série que vous consacrez à cette jeunesse qui s'engage pour l'environnement. Et aujourd'hui, vous nous présentez Louise qui habite à Albertville en Savoie.
Voilà, Louise a 16 ans. Au départ, cette lycéenne n'était pas très sensible à l'écologie, il faut bien l'avouer. Elle adorait par exemple la pâte à tartiner à l'huile de palme, les burgers d'un célèbre fast-food. Elle rêvait aussi de parcourir la planète en avion. Mais il y a quelques mois, suite à un devoir scolaire sur l'engagement, elle commence à s'intéresser aux questions environnementales. Et là, c'est la révélation. Elle change totalement sa façon de vivre et elle multiplie les actions pour protéger la nature. Et pour ça, cette lycéenne a déclaré la guerre aux déchets.
Alors, elle a organisé avec d'autres jeunes ce qu'on appelle des clean walks, autrement dit des marches pour nettoyer la ville et sensibiliser le public. Hein.
C'est bien ça. Et ce jour-là, elle s'attaque au parking d'un grand magasin d'Albertville où les ordures s'empilent. Et pour cette opération de nettoyage, elle et ses amis sont bien équipés.
On a plusieurs sacs poubelles pour le tri, pour les ordures ménagères et des gants. Et puis notre bonne humeur. On y va, du coup ? Donc ça, c'est une canette. Alors là, du coup, il y a un sac en plastique. Il y a énormément de plastique en général, donc qui se recycle pas. Je pense qu'on va vite remplir la poubelle.
Louise, en quoi ce que tu fais, toi et tes camarades, c'est bon pour l'environnement ?
Tous les déchets qu'on ramasse, on évite qu'ils finissent par exemple dans les cours d'eau, puis dans la mer, puis dans les océans. On évite aussi qu'ils se désagrègent dans la nature, ça reste de la pollution. Et après, pour finir, on les trie donc pour qu'après ils soient recyclés. Et ça, donc, ça va dans l'économie circulaire, je dirais. Donc c'est du bon pour la planète et donc une ressource qu'on n'ira pas encore chercher dans la planète si on recycle davantage. Ah bah voilà. Donc, on trouve vraiment des choses étranges. Comme je vous disais, là, c'est un emballage de préservatif.
C'est quoi ça?
Ah bah ça, c'est un bout de pneu.
Un pneu de vélo.
Ça va être à la déchetterie. C'est sûr, il en faut de la motivation après pour faire ce qu'on fait, mais quand on a quelques chiffres en tête, par exemple en 2050, on prévoit plus de plastique que de poissons dans les océans, ces chiffres qui nous font peur, en fait, on se dit c'est peut-être bien finalement ce qu'on fait. J'allais voir un passant du coup pour lui demander ce qu'il en pense. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Aujourd'hui, on est en train de ramasser bénévolement des déchets. On pense que c'est aussi en sensibilisant les gens et en leur faisant comprendre, prendre conscience de l'urgence de la situation qu'ils vont commencer à agir.
Alors, moi, je serais plus radical que vous. Je pense que avec les technologies modernes, il y aurait une petite caméra ici qui prendra les immatriculations des voitures ou des gens qui salopent le coin. Et ils seraient condamnés à des fortes amendes ou à des travaux d'intérêt généraux. Ça serait probablement beaucoup plus porteur que votre parole, qui est louable, mais un jour, vous allez faire comme nous, les anciens, et vous allez vous fatiguer.
Merci beaucoup en tout cas, et je vous souhaite une agréable soirée.
Merci. Au revoir.
Je m'aventure un peu dedans là parce que il en reste tout là-bas au fond. Je prendrai une bonne douche ce soir.
Louise, aujourd'hui cette prise de conscience, comment elle s'illustre ?
Alors, au plus profond de moi-même, je suis hyper pessimiste. Des fois, je craque, vraiment. Je vais dans ma chambre et puis je pleure. J'ai envie de vivre d'une manière plus respectueuse aussi de l'environnement. Et en fait, ça, on n'en parle pas assez. Mais parce que l'écologie, c'est vrai qu'elle est abordée souvent de façon culpabilisante parce qu'on doit renoncer à un confort pour avoir envie de devenir écolo. Il faut lire des livres qui donnent espoir comme quoi il y a des solutions et qu'on peut y arriver tous ensemble. Mais qu'il va falloir faire quelques sacrifices. Mais pour au final avoir mieux en fait limite que notre mode de vie actuel.
Ah, visiblement il y a des gens qui sont intrigués par ce que vous faites, qui viennent vers vous.
Bonjour, je veux savoir si vous aviez fait ça parce que vous étiez puni.
Ah non, pas du tout. Non. Non, on fait ça complètement bénévolement.
Ok, merci, bonne journée, au revoir.
Est-ce que c'est votre rôle de faire ça en fait? Est-ce que c'est pas vos agents municipaux ou au magasin, aux enseignes privées?
Alors, si, c'est tout à fait leur rôle et c'est pas le mien.
Est-ce que t'as pas autre chose de mieux à faire?
On a autre chose à faire. Moi, j'aimerais bien là rester chez moi et puis rester avec ma famille ou avec mes amis. Mais non, je suis obligée d'être là parce que limite, je me sens obligée de le faire parce que sinon, qui le fait, quoi? Quelque part, si, c'est du temps perdu parce qu'on pourrait faire autre chose. Mais d'un autre, c'est du temps gagné, j'ai envie de dire, sur la crise climatique. C'est un peu comme si... On était un peu les super-héros qui essayaient de changer le monde avant qu'il y ait plein de déchets qui nous envahissent de partout.
Voilà Antoine, Louise n'était donc pas punie, mais qu'est-ce qu'elle a fait de tous ces déchets exactement?
Eh bien elle a mis tous ces sacs remplis d'ordures dans un chariot, elle a ensuite marché pour trouver de grosses poubelles adaptées pour le tri, et il ne lui a fallu pas longtemps pour les atteindre, seulement 2 minutes à pied,
ah ouais.
Car c'est ça le pire, ces poubelles de tri sont à disposition sur le parking de ce magasin.
Demain Antoine, un autre portrait, et ce sera Eliès cette fois-ci.
Ouais, il n'a seulement que 13 ans, il est très charismatique, et il a décidé de faire un sondage à la sortie de son collège pour savoir comment améliorer le bilan écologique de son école.
Merci Antoine Lee, à demain, et ce reportage évidemment est à réécouter sur franceinter.fr à la page de La Terre au Carré. Dans un instant, l'incroyable histoire du vin, c'est une BD, on en parle avec son auteur Benoît Sima.
Yeah, je suis positif. Maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So, je suis positif. Yeah, je suis positif. Mon papa me dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Je peux avoir de remords, même c'est pour ça que je travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. On garde le smile, pas juste pour la night, yeah. Faut mettre les efforts, yeah. J'm'échappe au Goliath, yeah. et juste pour faire, yeah. J'essaie d'être comme personne, yeah. C'est pour ça que j'ai percé, yeah. Soupçon de percé, yeah. Plus une fois dans le cabanon, hey. First place au marathon, pendant que tu fais everybody wrong. Moi j'ai work hard, tu restes strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. Seul du bon pire matin. Rien à foutre des chiales. J'ai le talent, puis j'ai chance. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work my mi jour férié. Oh, oh, je veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que je travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Oh, oh, oh. J'vois que c'est les coups pour work le rêve. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais à des rêves. Mais non, la zik est pas pour faire. C'est bien triste là, mais c'est pas comme un jeu. Des fois t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alexandre bien heureux. Il faut work out pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir racheter du temps. Pour recommencer demain. Oh ben, oh ben. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman m'a dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa m'a dit dans vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work même les jours fériés. Oh, oh, je veux pas avoir de remords. Même c'est pour ça que j'travaille fort. Pas quoi de bien avant maman. Oh, oh, oh.
Positif. C'était Fouki.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
On terminera tous les jours l'heure de cette émission avec notre invité découverte. Et c'est vous, Benoît Sima, qui est notre premier invité à l'occasion de la nouvelle édition d'une bande dessinée. Ça s'appelle L'incroyable histoire du vin, de la préhistoire à nos jours. 10 000 ans d'aventure que vous signez avec le dessinateur Daniel Cazanave et qui est publié aux éditions Les Arènes BD. Alors c'est vrai que pour cette première Terre au carré, on aurait quand même pu rapporter du champagne. Bah, hein, parce qu'on va parler de vin, là, mais on a tout loupé. Vous auriez un bon champagne à nous conseiller, Benoît Sima? Vous qui êtes quand même journaliste dans ce domaine et spécialiste des vins, vous collaborez entre autres à la revue des vins de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller qui soit aussi écologiquement viable tant qu'à faire?
Pour une émission comme la vôtre, je connais un champagne qui est le premier à être le champagne zéro carbone. C'est-à-dire qu'il est capable de compenser les traces carbone créé par son activité, ainsi que celle de ses invités, enfin les gens qui viennent, se garent sur son parking, qui lui achètent du champagne. Et comment il fait ça? Bah, oui, il a tout un système d'économie d'énergie, puis aussi il investit dans le tiers-monde pour replanter des arbres.
Donc il compense au sein de l'environnement.
Exactement, c'est sa façon à lui. Alors c'est pas du tout du bio, ça n'a rien à voir, mais en fait le bio c'est pas simplement le cahier des charges qu'on connaît, le cahier des charges européen avec le, vous savez, le petit logo vert. En fait il y a plein de façons de faire du bio. Et ça, nous on appelle ça des vins écolos en fait, c'est le dernier chapitre de notre, de notre livre, parce que c'est l'actualité du. Et l'histoire du 21e siècle pour le vin.
Et c'est même une révolution. Hein.
C'est une révolution.
Vous l'avez nommé.
Tout à fait. Et donc il y a plein de façons de faire en fait. Le bio, c'est pas, c'est la manière la plus répandue, je dirais, de contribuer à tout ça. Mais après, vous avez les vins nature, vous avez la permaculture, vous avez même des vins vegan depuis cette année.
Bon, vegan, mais c'est mais plus marketing ça.
Bah parce que dans le vin, traditionnellement, il y a des traces de protéines animales.
Ah.
Ouais, ça, peu de gens le savent. En tout cas, ceux qui sont véganes le savent et donc ne se priver de vin parce qu'il n'y avait pas de bouteilles véganes.
Mais d'où viennent ces traces animales dans le vin des traits qui entourent les vignes?
C'est un peu technique, mais il y a une opération qui s'appelle le collage au moment de la vinification qui consiste à agglomérer les résidus en suspension dans les fûts. Et donc, pendant très longtemps, on mettait par exemple du sang de bœuf dans les tonneaux pour agglomérer ces particules. Depuis la vache folle, c'est interdit. Mais on continue à pratiquer quelque chose de très, très ancien, notamment à Bordeaux. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de Bordeaux. On met du blanc d'œuf. Et ça a la caractéristique d'agglomérer ces particules. Et avec le jaune, qu'est-ce qu'on fait? Les fameux cannelés bordelais.
Ah oui,
ça vient de là.
D'accord. Ouais.
Donc les traces animales, on voit d'où elles peuvent venir.
Exactement.
Hein, effectivement. Alors cette bande dessinée, d'abord c'est une réédition parce qu'effectivement vous avez ajouté ce chapitre écolo qui est extrêmement important et on va en parler. Mais c'est surtout un grand récit historique dont vous êtes l'auteur. Il y a ce dessinateur Daniel Cazanave qui nous a d'ailleurs dessiné un Bacchus babacool absolument sympathique.
C'est le narrateur.
Ouais, et qui nous emmène absolument dans toute cette histoire. Ça fait combien de milliers d'années que les hommes ont commencé à picoler finalement?
Alors, à picoler, on ne le saura jamais. Sans doute depuis que Cro-Magnon a découvert un jour dans une cavité rocheuse des raisins qui ont macéré naturellement, puisque vous le savez peut-être, les fruits de la vigne, le raisin, oui, sont les fruits qui vont fermenter le plus naturellement possible, le plus rapidement. Donc, on peut imaginer que le premier verre de vin bu par l'homme, ça s'est passé il y a 15 000, 20 000, 25 000 ans, et c'était du jus de raisin naturellement fermenté.
Ouais.
Après, la question, c'est quand est-ce qu'on a commencé à le faire de manière volontaire? Et en fait, les historiens, les archéologues du vin, imaginent qu'on a commencé à le faire quand on a inventé tout simplement les récipients, les poteries. Donc tout ça se confond un petit peu avec le néolithique,
oui,
c'est-à-dire 8 000 ans avant notre ère environ, en tout cas en Occident, c'est-à-dire environ 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui.
Et vous dites, hein, d'ailleurs on l'apprend, la vigne c'est une plante qui au départ est présente à l'état sauvage,
oui, hein,
et puis après donc il y a tout le savoir-faire finalement. Et...
C'est une plante qui a été domestiquée, mais qui existe toujours aujourd'hui à l'état sauvage dans de nombreuses régions du monde.
Mmh. Et alors il y a une autre invention qui a révolutionné finalement notre consommation du vin, mais c'est la bouteille aussi, hein, parce que vous parlez des poteries, mais il y a eu la bouteille ensuite.
Ce qui est très paradoxal, c'est que la bouteille c'est un petit peu une des dernières grandes inventions dans les 10 000 ans d'histoire du vin, parce qu'il y en a eu des tas auparavant, ouais, et on a inventé la vinification, on a inventé le fût de chêne. Le fût de chêne, ça a été sans doute l'invention majeure, hein, pour la conservation du vin et son transport, et donc pour répandre le vin dans toutes les civilisations européennes. Et effectivement, la bouteille, c'est un petit peu la grande innovation technologique qui se répand à partir du 15e siècle, 16e siècle, donc assez tardivement finalement. Ouais. Et c'est là, c'est à partir de cette invention qu'on s'imagine qu'on va commencer à pouvoir commercialiser des grands vins de garde, c'est-à-dire des vins qui vont se conserver plusieurs années, et qui vont avoir la caractéristique des vins d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en parle. On est très fiers d'ouvrir une bouteille entre amis, le partager, on en discute. C'est ce que disait Talleyrand. Talleyrand, il disait toujours que le meilleur moment de la dégustation d'un vin, c'est quand on en parle avant de déguster.
Mais c'est vrai. Et alors, il y a cette science du vin, finalement, qui s'élabore tout au long des siècles et des millénaires, et qui va vraiment bouleverser aussi. Vous dites, il y a un vrai parallèle entre l'histoire du vin et celle des civilisations.
C'est-à-dire qu'on constate dans l'histoire longue, que toutes les grandes puissances qui ont émergé sur les différents continents, quand ils ont pu être en contact avec l'œnologie, c'est-à-dire le fait de fabriquer du vin, ils se sont saisis de cette boisson et ils en ont fait une sorte de porte-étendard. C'est-à-dire que les régnants, les princes, donc soit les religieux, soit les oligarchies politiques, avaient toujours accès à ces ressources avant tout le monde, parce que c'était la boisson la plus importante. Et aujourd'hui, c'est encore plus qu'autrefois la boisson la plus importante, puisque c'est devenu quelque part la boisson de la mondialisation. Je veux dire, il n'y a pas un pays dans le monde qui ne produisent pas de vin aujourd'hui quasiment.
On parlait de bouteilles, il y a combien de bouteilles aujourd'hui en circulation chaque année par exemple?
Alors ça tombe bien, j'ai révisé mes chiffres avant de venir.
Ouais. Oui,
ils sont dans le livre. On produisait en 2017 environ 33 milliards de bouteilles sur la planète.
33 milliards.
Ouais, donc ça circule bien, effectivement.
Ça fait bien plus qu'une bouteille par habitant de la planète.
La révolution écolo. 5, alors, effectivement, Benoît Sima, cette révolution, elle est récente ou pas tant que ça, finalement?
Alors, on croit qu'elle est récente.
Situez,
on croit qu'elle est récente parce que le bio, c'est quelque chose de très... C'est pas à la mode, c'est une nécessité. Vous allez en parler dans cette émission pendant je ne sais combien d'années. Mais le bio, en fait, c'est très ancien. Le vin bio, ça provient de l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique, c'est pas une invention de Baba Cool des années 60, pas du tout. Ça remonte aux années 20, en Allemagne, c'est très historiquement situé. C'est un mouvement de paysans silésiens, animé par un type qui est assez connu des gens qui s'intéressent aux questions de philosophie, de religion, de Rudolf Steiner, et qui a inventé quelque chose, un mot que les gens connaissent, c'est la biodynamie.
Ouais.
Sauf que la biodynamie, on sait pas vraiment ce que c'est. C'est pas vraiment de l'expérimentation, c'est pas vraiment scientifique.
Non, mais c'est un truc bizarre.
Ben, on sait jamais trop si c'est bio, ou magique.
Puis il y a de la magie un peu dans tout ça, non?
Le corpus central de l'enseignement de Steiner, c'est qu'il y a des forces invisibles qui interagissent sur les humains et sur les plantes que ces humains ont cultivées, comme la vigne, et que les ceps de vigne peuvent être des capteurs qui vont capter ces énergies cosmiques ou telluriques.
Ouais. Bon, les forces invisibles, c'est quand on a bu trop de vin, finalement. Là on sent des forces invisibles.
C'est le deuxième effet, oui.
Aussi, effectivement. Non, mais alors, par contre, la biodynamique, ça existe encore. C'est-à-dire qu'il y a de très, très grandes maisons, c'est ce que vous dites aussi dans cette bande dessinée, qui ont leurs pratiques basées sur la biodynamique.
Exactement. Alors, attention, la biodynamie, ça reste l'exception par
rapport... Biodynamique ou de biodynamie, pardon ?
Biodynamie.
Ah, biodynamie, d'accord.
Ça reste l'exception parce que on parle en France sur 85 000 exploitations viticoles de 400-450 domaines qui font de la biodynamie. Donc c'est vraiment très très...
Les grandes maisons...
Par contre, les plus grands vignerons français
le font.
souvent sans le dire, c'est-à-dire qu'ils ne le mettent jamais sur l'étiquette, ils ne vous en parleront jamais, sauf si vous leur posez de manière insistante la question, ils pratiquent tous la biodynamie.
Romane Conti, par exemple
hein. La Romane Conti est en biodynamie depuis 2007.
Ouais. Et alors, le bio, vous dites que finalement, ce sera absolument inévitable. Tout le monde va faire du bio en matière de vin, non?
Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on sent bien qu'il y a des mesures qui sont prises et un désir de la population de s'intégrer dans cette nécessité environnementale générale. Et deuxièmement, parce que c'est assez facile, en fait, enfin, c'est pas hors de prix, c'est pas hors de portée pour les 85 000 exploitations viticoles françaises de faire du bio. C'est pas un truc impossible. Et aujourd'hui, on a déjà 10% de la surface du vignoble qui est convertie au bio. C'est-à-dire que les raisins sont bio. Et ils font du vin bio. Et on a déjà 5% du marché qui sont des vins bio, concrètement, en France. Et dans le monde, c'est à peu près pareil.
Est-ce que le vin bio est meilleur, entre guillemets, que le vin pas bio? Et c'est quoi la différence en fait, entre les deux?
Ceux qui font du vin bio, ils vont vous dire que leur vin est meilleur, et ceux qui font du conventionnel vont dire
ça, c'est faux.
Il peut y avoir de mauvais vins bio, il peut y avoir de mauvais vins pas bio.
Évidemment, il y a des mauvais vignerons qui font du vin bio, et inversement.
On trouve de la piquette bio, donc.
Bien sûr, bien sûr.
Vous nous le confirmez.
D'ailleurs, on trouve des bouteilles de vin bio aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit. 4-5 euros, c'est possible.
Ouais.
C'est possible. Mais ça coûte plus cher, mais c'est possible.
Ouais. Mais tout le monde va se convertir au vin bio, en tout cas dans les années qui viennent. C'est
C'est-à-dire que les priorités nous font que même ceux qui voudraient y résister le feront quand même à moindre frais. Et surtout, les grandes entreprises de la viticulture qui vendent des millions de bouteilles, pour eux, c'est un argument marketing superbe.
Ouais. L'incroyable histoire du vin de la préhistoire à nos jours. 10 000 ans d'aventure. Benoît Sima, vous signez les textes et Daniel Cazanave les dessins. Et c'est aux arènes de la bande dessinée.
Et c'est à consommer avec modération.
Absolument.
Et j'ai une question moi, que je vais poser tous les jours à nos invités pour quand même montrer que personne n'est parfait. Donc vous êtes le premier à l'inaugurer.
Bon, bah, c'est quoi
votre geste pas écolo des dernières 24 heures?
Ah, bah, alors c'est très simple. Moi, je prends un bain de 250 litres tous les jours.
Ah oui, carrément.
C'est vrai. J'ai une très grande baignoire, ça c'est mon trip anti-écolo, totalement assumé depuis toujours.
Mais vous l'assumez.
Ouais. Ah, totalement.
Bon, voilà. On
merci Benoît Sima. Merci.
Pas une baignoire de vin, une baignoire d'eau. Hein,
vous nous rassurez. Valérie Ayestaré réalisait cette émission. Denis Delbecq en était le rédacteur en chef. Et demain, nous recevrons Cyril Dion pour parler de la Convention citoyenne sur le climat.